RCF.
Et aujourd'hui, dans le 16-17, Armel va tenter de nous faire comprendre les causes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Bonjour Armel.
Bonjour Nicolas. Alors, aujourd'hui, dans le 16-17, on revient sur ce fait d'actualité qui nous a beaucoup occupés la semaine dernière et encore cette semaine. Il s'agit du tremblement de terre en Turquie et en Syrie, comme vous l'avez dit Nicolas. Nous allons en parler du point de vue purement scientifique. Nous n'aborderons pas le point de vue humanitaire aujourd'hui, mais ça pourrait faire l'objet d'une toute autre émission. Pour nous expliquer pourquoi et comment a eu lieu un tremblement de terre aussi ravageur et répondre à toutes les questions que l'on se pose, j'ai avec moi en studio Michel Van Kamp, qui est à la tête du service sismologie et gravimétrie de l'Observatoire Royal de Belgique. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on a tous un peu appris la tectonique des plaques à l'école, mais pour ceux qui auraient sans doute oublié le contenu de leur cours de géo, comme moi par exemple, que se passe-t-il sous terre quand un séisme a lieu ?
On va peut-être faire un rappel de tectonique des plaques précisément, c'est qu'on peut comparer la Terre à un œuf, à la coquille fêlée, toute fêlée. D'ailleurs, si on fait le rapport entre l'épaisseur d'une coquille d'œuf et le diamètre de l'œuf, ben on obtient la même chose par rapport à la croûte terrestre, par rapport au diamètre de la Terre. C'est exactement le même rapport. C'est vous dire combien on vit sur une planète extrêmement fragile. Et donc, ces morceaux de coquille d'œuf ou ces plaques tectoniques, si vous préférez, ben, il y en a 12 grandes et un tas de plus petites. Elles bougent les unes par rapport aux autres. Et là où elles se rejoignent, là où elles se rencontrent, là où elles frottent les unes contre les autres ou entrent en collision, eh bien, ces frottements, ben, ça cause des tremblements de terre. Alors, si on va en Turquie, ben la Turquie, malheureusement, c'est un pays qui correspond grosso modo à une petite plaque tectonique, un petit morceau de coquille d'œuf, c'est la plaque anatolienne, qui est coincée entre la plaque arabique, l'Arabie, donc qui remonte vers le nord, et l'Eurasie, essentiellement l'Europe, là, en fait, qui la bloque au nord. Et donc, on peut comparer la Turquie à un pépin de melon coincé entre deux doigts, et ce pépin, ben, si vous coincez un pépin de melon entre deux doigts, ce pépin va avoir tendance à glisser sur le côté, et dans le cas de la Turquie, il glisse vers l'ouest. Et donc, la Turquie se rapproche au moins au point de vue géographique de la Grèce avec une vitesse de l'ordre de 1 à 2 cm par an. Alors, ce qui s'est passé, en fait, donc, cette frontière de ce pépin entre au nord l'Europe et l'Asie et au sud l'Arabie, eh bien, cette frontière se matérialise, s'accommode par deux grandes failles. Au nord, c'est la faille nord-anatolienne qui va depuis la frontière est de la Turquie jusqu'à Istanbul et puis disparaît vers la mer des de Marmara. Et elle est responsable notamment du grand tremblement de terre d'Izmit en 1999 qui avait fait 17 000 morts. Et c'est la faille qui menace Istanbul. Quand on parle d'un Big One en Turquie, c'est celui dont on a le plus peur, c'est celui qui risque dans les 50 prochaines années de frapper Istanbul. Et au sud, on a la faille est-anatolienne qui limite la Turquie avec la plaque arabique. Et c'est là que ça a glissé. Alors, un tremblement de terre, qu'est-ce que c'est ? On a deux morceaux de croûte terrestre qui sont bloqués au niveau de la faille l'un contre l'autre parce qu'il y a des grosses pressions, ils s'appuient fortement l'un sur l'autre. On peut peut-être imaginer ça par deux lutteurs sumo qui sont en équilibre l'un contre l'autre, et puis tout à coup il y en a un qui cède. Vous imaginez que vous essayez de pousser une grosse garde-robe et vous poussez, elle bouge pas, elle reste bloquée par le frottement sur le sol, et puis tout à coup elle se met à glisser. Quand elle se met à se glisser, ça fait du bruit, ça fait vibrer le plancher. Ben, c'est le tremblement de terre. Quand on a donc deux morceaux de plaques tectoniques, deux morceaux de croûte terrestre qui se mettent à bouger brutalement l'un contre l'autre, ça crée un tremblement de terre parce que malheureusement, le glissement se fait de manière abrupte. Il y a des aspérités dans la croûte terrestre, donc ça glisse, mais ça glisse mal. C'est mal lubrifié, en fait. Et donc, ce qui s'est passé le lundi 6 février, très tôt, en pleine nuit, on a ce morceau de plaque tectonique qui a bougé brutalement vers l'ouest. C'est une déchirure, une rupture qui s'est propagée sur plus de 200 kilomètres avec des déplacements qui ont parfois dépassé 2 mètres. On voit des belles images, enfin des images assez frappantes. Pas nécessairement effrayantes, mais frappantes. Pente d'une route, par exemple, qui tout à coup, une voie de chemin de fer qui tout à coup est déplacée de 2 mètres vers la gauche, ben, c'est l'endroit où passe la faille, c'est la limite entre les deux plaques tectoniques. Et donc, c'est une grosse rupture qui a généré de gros mouvements du sol et de là les gros dommages.
Et donc là, le tremblement de terre qui a eu début de semaine dernière, est-ce qu'on aurait pu le prévoir à l'avance et peut-être son intensité pour éventuellement sauver des vies? Parce qu'il y a quand même plus de 40 000 personnes qui l'ont perdu la vie.
Alors, ce à quoi travaillent les sismologues, et c'est le même combat en Belgique, qui n'est pas un pays tout à fait calme, contrairement à ce qu'on peut croire au niveau sismique, c'est qu'on travaille énormément et on essaye de faire évoluer les mentalités sur la prévention. C'est-à-dire qu'on est capable, avec maintenant tout ce qu'on sait et tout ce qu'on peut mesurer, on est capable de dire... telle zone, il y a une probabilité d'avoir tel mouvement du sol dans les 50 années à venir. C'est comme ça qu'on sait, parce qu'on mesure le mouvement notamment des plaques tectoniques, on sait qu'Istanbul est fortement menacée, il n'y a plus eu de séisme depuis longtemps, et on sait qu'un grand tremblement de terre, dans le genre de celui qu'on a eu la semaine passée, se produira tôt ou tard à Istanbul. Quand on parle du Big One en Californie, c'est la même chose. Là où ça a tremblé il y a une semaine, c'était aussi une zone, si vous regardez une carte d'aléa sismique, c'est-à-dire une carte avec les probabilités d'avoir un gros tremblement de terre prochainement dans le monde, et bien si vous regardez cette carte pour la Turquie, vous allez voir deux grandes zones rouges, c'est toute la faille nord-anatolienne et toute la faille est-anatolienne. Donc ce séisme n'est pas venu par surprise. Ce qu'on ne peut pas faire, ça c'est dans l'état actuel des choses, et peut-être qu'on n'y arrivera jamais, c'est de faire une prédiction au sens où on fait une prédiction du temps, où il va pleuvoir demain, là où le météorologue ne se trompe quasiment plus. Ça, c'est pas possible. Et je vais être un peu provocateur, je vais dire à quoi ça servirait. Si vous avez été incapable de construire... Oui, vous allez sauver des vies, bien sûr, vous pourrez dire aux gens, restez dehors. Mais vous n'avez pas construit de manière à résister aux tremblements de terre, vous allez avoir de toute façon une ruine économique terrible, parce que vous n'allez pas empêcher les bâtiments de s'effondrer. Hein. Si j'avais pu prédire le séisme de lundi, on n'aurait de toute façon pas pu empêcher les bâtiments de s'effondrer à partir du moment où ils sont mal construits. Donc vous allez avoir des dégâts économiques terribles, vous allez avoir un blocage de l'économie et puis des dégâts humains parce que les gens, économiquement, je vais prendre un exemple plus près de nous, le séisme de Liège en 83, il y a des gens sans doute qui ne s'en sont jamais réellement remis au niveau économique. Et donc, nous, les sismologues, les scientifiques, et quand je dis nous, c'est pour ça là pour le monde entier, on connaît de manière générale les zones avec aléas sismiques significatifs, que ce soit au Japon, à Téhéran, ou en Belgique, ou en Turquie, ou en Californie. Malheureusement, c'est les mentalités qui sont difficiles à faire changer. Les gens ont toujours tendance à vous dire parlez pas de malheur. On l'a vu aussi avec les inondations qui pourtant est un aléa qui est... La perception devrait être meilleure, mais là aussi, il y a énormément de travail à faire. Et voilà, je crois que je ne peux pas ajouter grand-chose.
Mais non, ça veut dire qu'il y a une façon de construire les bâtiments autour de ces failles qui pourrait faire en sorte qu'il ne s'effondre pas.
Oui, absolument. D'ailleurs, les mouvements du sol n'ont pas été particulièrement, pour un séisme pareil, on a parfois des mauvaises surprises ici, de ce que je sais a priori, les mouvements du sol n'ont rien eu de particulier, je dirais. Pour un séisme de cette magnitude, évidemment. Construire parasismique, il ne faut pas non plus imaginer que c'est des trucs hyper high-tech, haute technologie, avec oui, on a ces images de bâtiments montés sur amortisseurs, etc. C'est vrai pour des très grands bâtiments, des bâtiments un peu particuliers, ou des grands ponts, ou ce genre de choses, où on se permet de mettre en pratique des techniques d'ingénierie parfois très sophistiquées. Non, construire parasismique, c'est d'abord un bâtiment juste bien conçu, avec des colonnes en béton où le ferraillage est mis convenablement, avec un béton de bonne qualité. Les problèmes dans certains pays, par exemple, c'est simplement au lieu de mettre... Vous savez, on fait pas un béton n'importe comment, il faut un sable qui répond à des normes bien strictes. Donc, par exemple, on pourrait pas faire du bon béton avec du sable qu'on irait chercher sur les plages d'Ostende. On peut pas. C'est des sables qui sont pas nécessairement aptes. Les cailloux, il faut des cailloux qui ont une bonne granularité, des cailloux très, très pointus, qui font mal aux doigts quand on les tient en main. Il y a des pays où on va chercher les cailloux dans les lits des rivières, mais ce sont des cailloux lisses, et donc le bâton a une moins bonne résistance. Et alors, c'est un bon ferraillage, c'est une bonne géométrie du bâtiment. Il y a un bâtiment L, par exemple, va résister beaucoup moins bien à un tremblement de terre, parce que le bâtiment va avoir tendance, vous imaginez le L, et bien vous imaginez les deux branches du L le bâtiment va vouloir applaudir pendant le tremblement de terre, littéralement. Vous faites le mouvement, vous imaginez les deux bras du L qui veulent se rapprocher et s'éloigner.
Pas pratique.
Et au niveau de la charnière du L, ben, ça va souffrir, et on risque des dommages. étages. C'est éviter des étages. Parfois, vous savez, c'est très gai d'avoir des grands halls d'entrée très dégagés, mais le problème, c'est que c'est une grosse structure, une grosse zone de faiblesse et un dégât typique des séismes. Vous avez l'impression qu'un bâtiment est intact, mais en fait, il a perdu un étage. Il s'est effondré, son rez-de-chaussée a disparu. Ou bien, parfois, le rez-de-chaussée cède et puis tout le reste au-dessus ne supporte pas la chute. Pourquoi donc le rez-de-chaussée cède? C'est parce qu'il y a une absence de colonnes et de murs, parce qu'on aime bien les grands espaces. C'est les ferraillages de béton. Il y a un art du ferraillage de béton, mais ça demande aussi une surveillance. Et le problème, quelqu'un disait un peu en boutade, un collègue scientifique, j'ai vu ça la semaine passée, si le béton était transparent, on éviterait déjà beaucoup de problèmes parce qu'on pourrait voir ce que les entrepreneurs ont fichu en le coulant. J'ai vu des images, et c'était pas en Turquie, c'était à Taïwan. En 99, il y a aussi eu un grand tremblement de terre. Des colonnes de béton ont rompu sous l'action du tremblement de terre et en fait, en rompant, on a découvert le poteau rose. Le béton était rempli de bidons vides. L'entrepreneur n'avait rien trouvé de mieux que de mettre dans son béton des bidons vides. Il économisait le ciment et le béton. Et évidemment, quand vous mettez du vide au lieu de béton, quand ça vibre, ben, ça tient pas le coup et ça s'effondre.
Alors, le séisme, comme tous les séismes, je pense, a eu des répliques, beaucoup d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est exactement une réplique? C'est le tremblement de terre en plus petit ou c'est d'autres tremblements de terre qui suivent tout simplement?
Alors là, on va rentrer dans des terminologies, de la terminologie. On va d'abord prendre un simple tremblement de terre. Je vous ai dit, c'est le glissement brutal d'un morceau de croûte terrestre l'un contre l'autre. Et ce glissement n'est pas parfait. Il y a des zones qui ont résisté. Il y a des zones où la déchirure ne s'est pas faite. Il y a des zones où il y a des aspérités qui sont restées coincées. Et donc, il faut le temps que ça se tasse littéralement. Et donc, il y a aussi au voisinage immédiat de la faille, du fait de ce glissement de brutal, vous avez perturbé tout ce qu'il y a autour. Et donc, s'il y a d'autres petites failles autour ou juste un peu plus loin ou juste derrière la rupture, vous pouvez avoir alors un relâchement de ces contraintes dans les heures, les jours, voire les mois qui suivent. Alors, il y a une règle générale qui dit, pour un séisme de magnitude donnée, par exemple ici 7.8, vous allez au moins avoir une réplique de magnitude 6.8, donc un degré en dessous, ce qui est déjà énorme en fait. Hein. 6.8 sous la Belgique, on a des problèmes dans tout le pays. Et puis 10 de magnitude 5.8, et puis 100 de magnitude 4.8. Et c'est une règle qui est généralement correcte, avec une décroissance dans le temps qui, maintenant, à l'heure où je vous parle, ça s'est déjà pas mal calmé, mais il y en a encore pas mal de magnitude 4,5, 5, ce qui déjà localement ne doit pas être confortable à vivre. Alors ici, on a eu un phénomène particulier, c'est qu'après le 7,8 en pleine nuit, dans le courant de la matinée, on en a eu un autre de magnitude 7,5. Et ça, ce n'est techniquement pas une réplique, c'était une centaine de kilomètres au nord sur une faille adjacente. Quand je vous dis que la frontière entre deux plaques tectoniques, c'est une faille, en pratique, c'est pas toujours vrai. Il y a parfois des réseaux de failles. Mm-hmm. La même chose à San Francisco. Vous avez San Andreas qui passe à l'ouest de la ville. Mais de l'autre côté de la baie de San Francisco, à Berkeley, vous avez une autre faille qui accommode une partie du mouvement. Donc, c'est pas toujours aussi simple. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le premier séisme a perturbé tout ce qu'il y avait autour de lui, y compris une centaine de kilomètres. Et il en a déclenché un deuxième. Et là, on va pas parler d'une réplique, mais d'un doublet.
Donc là, c'est juste quand on parle d'un double séisme.
Oui, alors, c'est plutôt un doublé. Un double séisme, oui.
Plus toutes leurs répliques.
Voilà, chacun et chacun, alors, du coup, avec leur réplique propre.
Alors, ce séisme, qui est donc de magnitude 7,8 à sa base, il a été mesuré jusque chez nous à Uccle. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'on mesure un séisme qui se passe quand même à des milliers de kilomètres chez nous et que nous, on n'ait rien senti s'il a été mesuré?
Alors, tout séisme de magnitude supérieure à 6, où qu'il ait lieu dans le monde, vous le mesurez partout dans le monde, parce que la Terre conduit extraordinairement bien les ondes sismiques. Les vibrations passent très bien dans la croûte terrestre. Des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on a déjà récemment, on a pu mesurer un tir atomique coréen, parce que les explosions atomiques font également créer aussi des ondes sismiques qu'on peut mesurer. Alors nous, on n'a rien senti parce que c'est trop faible, mais on a des instruments extraordinairement sensibles qui peuvent mesurer des mouvements de l'ordre du nanomètre, donc le milliardième de mètre sans aucun problème. Nous, on ne peut pas le sentir. Je vais prendre un autre exemple, le séisme du Frioul dans le nord de l'Italie, si ma mémoire est bonne, c'était en 1976. C'était magnitude, je pourrais plus dire exactement, mais au-delà de 6. L'Italie, c'est plus près, il a été ressenti dans les hauts immeubles à Bruxelles et Anvers. Lui, les mouvements haute fréquence s'atténuent assez rapidement, ça on ne les sent pas dès qu'on s'éloigne suffisamment, mais il y a encore des mouvements plus lents, et ça a fait osciller les grands immeubles, et les gens l'ont ressenti dans des grands immeubles, par exemple à Molenbeek ou à Anvers.
Mais donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être sur une même plaque ou...
Non,
c'est vraiment juste parce que tout le monde l'a pu le mesurer.
La Terre, les vibrations passent très bien dans la Terre.
Et donc, est-ce que, vu que tout le monde est sur une plaque tectonique, est-ce que tous les lieux sont propices à avoir des tremblements de terre ?
Ah ah, vaste question. Plus de 90% des tremblements de terre ont lieu aux frontières des plaques tectoniques. Donc, que ce soit en Californie, entre la plaque nord-américaine et la plaque pacifique, au Japon, entre la plaque pacifique et la plaque Eurasie et la plaque philippine, etc., etc. Mais il y a aussi des tremblements de terre à l'intérieur des plaques, ce qu'on appelle les séismes intra-plaques. Et il y en a notamment dans nos régions, il y en a en Inde, il y en a en Australie, il y en a dans l'Est des États-Unis. On parle toujours de la côte ouest, mais ils en ont quelques-uns dans l'Est des États-Unis. Et on aimerait bien comprendre pourquoi. On a des hypothèses, on a des raisons de penser, et je vous dirais que c'est un sujet d'étude toujours très actif sur lequel nous-mêmes, à l'Observatoire Royal, on est très occupés.
Alors, vous l'avez mentionné, il y a aussi de l'activité sismique chez nous. Vous avez par exemple parlé d'un tremblement de terre à Liège. Où est-ce qu'elle est la plus forte chez nous ? On a des failles qui font qu'il y a des endroits qui sont plus propices aux tremblements de terre en Belgique ?
Oui, alors il y a tout ce qu'on appelle le Graben de la Ruhr, si vous voulez, c'est la vallée de la Meuse et du Rhin, qui est un fossé d'effondrement qu'on pourrait peut-être un peu comparer en plus petit au grand rift africain. Donc c'est une zone de faiblesse dans la croûte terrestre où la vallée a tendance à s'enfoncer. Et par exemple, du côté ouest, le plateau de Campine a se soulevé. Je pourrais vous montrer dans le paysage, si nous nous rendions du côté de Bré, dans le Limbourg belge, je pourrais voir une belle marche d'escalier dans le paysage qui est la conséquence de séismes répétés. Et on sait par les études paléosismiques, donc de l'étude de séismes anciens en recherchant les traces dans le paysage, mes collègues géologues à l'Observatoire ont fait des belles études à partir des années 90, on sait qu'il y a eu des tremblements de terre de magnitude supérieure à 6 dans le passé. Avec les études historiques, on sait aussi qu'il y en a eu d'autres. Il y a eu le sud de la mer du Nord en 1380 et 1540. J'ai un trou de mémoire, 1580 et 1380, je pense, qui avait fait des dégâts considérables. Il y a eu Verviers, la région de Verviers en 1692, qui a fait des dégâts jusque dans l'est de l'Angleterre. Et cette tremblement de terre-là nous pose plus un problème parce que là, on n'a pas vraiment de coupable. On recherche, par exemple, celui de Verviers en 1692, on recherche toujours la faille. On a des soupçons, mais on recherche toujours la faille qui aurait été capable de le faire. Et ça, c'est une des grosses questions qu'on a pour comprendre la sismicité à l'intérieur des plaques. OK, de temps en temps, vous avez des structures comme la vallée de la Meuse où là, dans la géologie, les choses sont encore plutôt claires. Mais il semble aussi que de temps en temps, les tremblements de terre apparaissent plic-ploc. Donc Verviers en 1692, Calais, le Pas-de-Calais en 1580, puis peut-être le prochain. On en a eu en SB au 19e siècle, Liège en 83, et on comprend pas très bien pourquoi, si ce n'est que certains, par exemple, il y a une sismicité aussi importante dans le Hainaut en Belgique, et là on est de plus en plus certain que cette sismicité est liée à l'extraction de charbon au 19e et au 20e siècle. Donc, par exemple, cette sismicité-là devrait aller normalement en décroissant, maintenant qu'on a arrêté l'exploitation.
Et est-ce que vous disiez tout à l'heure qu'on peut prédire dans les 50 prochaines années s'il y aura probablement un tremblement de terre ? Est-ce que là, aujourd'hui, vous savez dire que dans les 50 prochaines années, la Belgique aura un tremblement de terre ?
Cette année, il y en a eu 99 en 2022, mais des petits. Il y a quand même eu un qui était ressenti, un ou deux qui ont été ressentis, mais ça, c'était dans la région de Mol. Ça, c'était des séismes induits par l'homme, ceux-là. Mais dans les 99, c'est des naturels. Mais de magnitude, il y en a aucun dans les naturels, il y en a aucun en Belgique qui a été ressenti parce que trop faible, mais qu'on a mesuré sans problème. Alors, il y en a de temps en temps, évidemment, qu'on a ressenti. Moi, j'ai 54 ans, bientôt. J'en ai déjà ressenti quelques-uns dans ma vie. Rourmande en 92, l'Heureux en 95, j'en ai ressenti un près de Spa dans les années 90 aussi. Il y a eu celui de Douvres que j'ai ressenti à Bruxelles, Cour Saint-Étienne en 2008, j'en ai senti un à Bruxelles. Et je n'ai pas fini la liste. Donc, il y a des tremblements de terre. Et alors, faire des cartes d'aléas sismiques, elles existent. Vous pouvez aller voir sur notre site web. Il y a même ce qu'on appelle l'Eurocode 8, qui est un code de construction pour le bâti de monsieur et madame tout le monde. Vous pouvez demander à votre architecte de suivre ces normes. Donc, on a des cartes, tout comme pour la Turquie, je vous ai dit qu'il y avait des zones rouges rouges et des zones un peu moins rouges. En Belgique, on a des zones un peu plus rouges. Bien sûr, c'est pas aussi rouge qu'en Turquie, mais l'est de la Belgique et le Hainaut sont davantage rouges. En fait, la Léa dans l'est de la Belgique n'est pas très différente de ce que vous pouvez avoir à la Côte d'Azur, par exemple.
D'accord. Mais du coup, là, s'il y a eu 99 tremblements de terre et qu'on ne les a pas ressentis, ils étaient de quelle magnitude à partir de...
On était en dessous de 2. Pour que vous ressentiez... Bien sûr, ça dépend aussi de la profondeur du tremblement de terre. Mais une règle générale, je dirais qu'au-dessus, il faut que la magnitude soit au-dessus de 2,5. Maintenant, il y a des tremblements de terre comme à Cours-Saint-Étienne, en dessous de magnitude 0,5. Les gens percevaient les tremblements de terre parce qu'ils étaient peu profonds. Et aussi, parce que la croûte terrestre à Cours-Saint-Étienne, du côté de Cours-Saint-Étienne, ceci comme caractéristique, elle conduit vraiment bien les ondes sismiques. C'est un vieux massif très dur. Et donc les gens, même les plus petits de magnitude autour de zéro, les gens ne les sentaient pas, mais les entendaient.
Donc
ça faisait une sorte de bank.
D'accord. Mais alors, du coup, là, depuis tout à l'heure, vous nous parlez aussi du Big One, qui pourrait y avoir à Istanbul ou à San Francisco. Qu'est-ce que c'est que le Big One ? Est-ce que c'est un tremblement de terre qui va tout engloutir ?
Non, c'est pas un tremblement de terre, j'allais dire pire que celui de la semaine passée, c'est difficile de faire pire, mais c'est ce genre d'événement qui risque de causer beaucoup de soucis. C'est-à-dire, bon, à Istanbul, les Turcs, les collègues turcs, les sismologues turcs sont très bons, il n'y a pas de question à se poser à ce niveau-là, ils ont des très bons ingénieurs. Ils ont d'énormes sismiques. Problème, c'est que visiblement, elles ne sont pas mises en application correctement. Istanbul, il y a pas mal d'efforts, surtout depuis le séisme 1999, de renforcement, par exemple, des écoles, de bâtiments sensibles. Et donc, un Big One, c'est d'abord un gros tremblement de terre qui, clairement, va causer des dégâts. Mais même dans des villes comme Tokyo, hein, on a beau construire parasismique, il y a toujours des machins qui vont moins bien se comporter, ou parfois des négligences, parfois bêtement des panneaux publicitaires qui tombent sur les gens. Comme c'est des panneaux publicitaires,
mal.
Ça n'obéit pas toujours à des normes, mais ça peut suffire à tuer des gens. Et donc un Big One, c'est essentiellement un gros tremblement de terre auquel on s'attend parce qu'on sait que les plaques tectoniques à cet endroit ont accumulé pas mal de contraintes parce que ça n'a plus tremblé depuis longtemps. Par exemple, à San Francisco, on sait que le dernier c'est 1906 et depuis le mouvement des plaques tectoniques est tel qu'on a accumulé au moins deux... On a tiré sur l'élastique, si vous voulez, de plus de 2 mètres et on sait que ça va casser. Haïti, c'était la même chose. Avant le séisme de 2010, un collègue français avait publié un article en disant, d'après nos mesures, ça fait 250 ans que ça a plus tremblé, faites attention, ça va casser. Et attention, le collègue n'est pas Madame Soleil, il avait dit, dans les 50 prochaines années, on peut être à peu près sûr d'avoir un gros problème. Bon, il y a un an ou deux après sa publication, malheureusement, on a eu aussi un Big One qui a détruit Port-au-Prince.
Mais un Big One, quelle est sa magnitude ? Est-ce qu'il y a une magnitude précise ou
non,
c'est
Big One, c'est
ressenti.
Une expression de journaliste. Les sismologues ont plutôt des appellations grand tremblement de terre. Je vois même pas très bien les traductions. Il y a large, major, great earthquake. En français, on se contentera de dire un grand tremblement de terre. Je vous dirais qu'un grand tremblement de terre comme celui de Verviers en 1692, c'est un tremblement de terre qui est susceptible de rompre la croûte terrestre dans toute son épaisseur, donc sur une vingtaine de kilomètres. Ce qui veut dire que vous avez une rupture en surface. Si vous avez un tremblement de terre comme Roermond en 1992, qui était déjà un 5.3 et qui m'avait bien solidement réveillé à Bruxelles, La rupture ne faisait que 3 km de long et elle était restée à 20 km, 17 km sous le sol. Il n'y avait pas de rupture en surface. Des séismes comme Amatrice en Italie il y a quelques années ou comme celui de Turquie cette année, la semaine passée, ça c'est des grands tremblements de terre, c'est des big ones si vous voulez, dans la mesure où il y a eu une rupture en surface et on retrouve la déchirure sur la surface terrestre, rappelez-vous, la route déplacée.
Ben voilà, c'est déjà l'heure de nous quitter. Merci Michel Van Kamp de nous avoir rejoints dans le 16-17.
Je vous en prie.
Chers auditeurs, nous allons faire une pause musicale, puis vous retrouverez Étienne Dallaire pour Aura des Pâquerettes. Aujourd'hui, il vous parle de la maladie, mais juste avant, on écoute Raphaël avec l'année la plus chaude de tous les temps.
Il pleut des cordes sur le balcon. Le vent s'engouffre dans la maison, les volets claquent vers la mer, le ciel est bleu pourtant. Tu regardes vers le nord, avis de grand frais à la fenêtre, mer 5 à 7, forcissant dans ta tête, des crêtes d'écume au plafond, un orage dans le salon, dans la salle de bain du bar, détends-toi. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. De tous les temps. De tous les temps. L'anticyclone des Açores est sur nous. La main de Dieu est sur nous. Les comètes géantes arrivent, le canapé dérive. Dans les muséums d'histoire naturelle, les os des dinosaures tremblent, les planètes s'entrechoquent. Et tu n'as encore rien vu, et tu n'as encore rien vu. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. De tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. De tous les temps, de tous les temps. Sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison. Les volets claquent vers la mer. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps.